Manitou, la nation d'Israël, chapitre 38-39, Bereshit Rabbin, quatrième bande.
Pas qu'il faut mériter puisque c'est un cadeau, mais qu'il faut justifier, confirmer, assumer, mériter a posteriori. Parce qu'il est donné comme cadeau. S'il n'est vraiment pas mérité, il risque d'être perdu. Mais ce n'est pas parce qu'il a été mérité qu'il est donné, il a été donné parce qu'Israël est Israël. Il n'y a pas. Je ne sais pas comment vous dire, c'est une donnée d'existence. C'est ce que nous appelons le mérite des pères. C'est parce que les patriarches ont été ce qu'ils ont été qu'il y a dit c'est vous. Voilà, c'est clair jusque-là? Alors, leur descendance, c'est leur descendance. Après tout, on n'est pas n'importe qui. On est toujours un tel, puis d'un tel, puis d'un tel, puis d'un tel, fils d'Abraham, ou fils de Nimrod. Et ça n'a rien à voir. Alors, bien sûr, à l'échelle individuelle, il n'y a pas de fatalité, on peut choisir un meilleur rôle dans la scène de l'histoire. Et un descendant de Nimrod peut devenir un fils d'Abraham. Et le Talmud l'a enseigné, ça va vous étonner, pour Nabucodonosor. C'était Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, ça vous dit quelque chose? C'était le tyran du temps de la destruction du deuxième temps. Et le Talmud dit que Nabucodonosor, s'il avait été... Je peux, dans notre temps, imaginer Eichmann. Si Eichmann avait été, on avait été capable, il aurait pu devenir juif. Et il aurait changé de lignée. De fils de Nimrod, il serait devenu fils de Nimrod. Mais il n'était pas capable, donc il est resté Eichmann. De la même manière pour Nebuchadnezzar, le Talmud dit que des descendants de Nabucodonosor ont siégé au Sanhédrin au temps de Ezra. Nous avons aujourd'hui des convertis au judaïsme en Israël qui sont des descendants dont vous n'avez aucune idée. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Alors, on dirait à ses ancêtres que leurs descendants sont dans un kibbutz en Eretz Israël. Mais c'est cette histoire qui est racontée. Top. Alors, le verset dit Halo belastecha imanu. Mais c'est Midrash qui dit que Moïse a demandé que la Shrina visite sur Israël. C'est pas du Midrash, dans le sens de M. Dupuis. Okay. C'est le verset qui dit ça. N'est-ce pas par le fait que tu marches avec lui? Comment le verset peut dire ça si ce n'est pas réel? Et qu'est-ce que c'est cette réalité-là, que Dieu marche avec Israël? C'est la Shrina qui accompagne Israël. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous voyez que, pas seulement la Bible, j'espère que maintenant ça va de soi, mais le Midrash lui-même, on peut le comprendre que dans sa langue, on peut le comprendre comme les autres. Alors évidemment, quand on perçoit un Midrash comme un mythe, c'est qu'au fond, on n'a qu'une lecture mythique de la sagesse. Et alors on la projette même sur la Bible. Mais un Midrash, ce n'est pas un mythe. D'abord pour la raison élémentaire qu'un mythe, ce n'est pas un Midrash. Et peut-être que ça vaut la peine qu'une fois nous ayons une étude. Et avec des spécialistes du grec, de la mythologie grecque, et des spécialistes du Midrash. Et on poserait le sujet, les différences et les analogies apparentes entre le mythe et le Midrash. Vous voyez, quand j'entends dans ce que vous a dit Dupuis, qui voulait parler des mythes. Okay. Mais comme beaucoup de juifs jouent à ça aussi, par inconscience, responsabilité, mais la plupart du temps ignorance, alors ça conforte un peu cette incompétence des étrangers, je ne sais pas comment dire ça. Okay. Je veux dire, le scandale n'est pas tellement que ce soit un prêtre qui dise ça, parce qu'il y a des rabbins qui le disent. Mais Dupuis est un vrai prêtre. Je n'ai pas dit que les rabbins en question n'étaient pas les vrais rabbins, mais je n'ai pas dit le contraire non plus. Et effectivement, c'est un problème, le mythe et le midrash. Alors, vous voyez que c'est pas possible de lire le verset autrement. Je crois que c'est ça le sens du midrash, de comprendre l'exégèse hébraïque de la Bible en hébreu. Deuxième demande, Bikesh lo tishrei shechina alumot haolam benadol. Deuxième demande, Moïse a demandé que la Shrina ne repose pas sur les nations du monde, et Dieu lui a donné. Chez Nehemar, parce que la suite du verset dit, « Ve niflinu ani ve amecha » et nous serons différents, moi, c'est Moïse qui parle, et ton peuple, des autres peuples. Alors, où est la différence avec les autres peuples? Si, et vous allez voir quelle est la question, Moïse a demandé la Shrina pour Israël, c'est très bien, et pourquoi pas pour les Goïm aussi? On appelle ça « Ein Ra'a ». Quelqu'un qui reçoit un cadeau et qui ne veut pas que ce cadeau aille au voisin. C'est pas joli, ça.
C'est normal.
Hein? Pardon?
C'est normal.
C'est
normal.
Et non, c'est pas normal. Ça s'appelle Aïnra. Ça s'appelle... C'est un mot qui est entre l'envie et la jalousie. Je ne sais pas si ça existe en français. Ça veut dire que, je ne sais pas comment dire, vous vous rappelez l'histoire de Joseph, okay? Joseph, tous les fils de Jacob avaient une tunique. Joseph avait une tunique un peu plus longue, ça a déclenché tout ce que ça a déclenché. Okay? Et alors, c'est comme si, je ne crois pas, il n'y a pas de différence là-dessus, Joseph aurait demandé à Jacob, merci pour la longueur de la tunique, mais surtout pas pour les autres. Okay? Non, c'est même pas la peine de citer un commentaire sur ce midrash, ça va de soi. La première question, à la rigueur, on la comprend avec son explication. La deuxième question, la deuxième demande de briser dur. Qu'est-ce que alors là, il faut faire un petit peu de morale juive. Hein? Je crois que la plus grande des méchancetés, la définition de ce que c'est un rachat, hein, c'est celui qui accepte une vertu à condition que la récompense qui lui sera donnée de la vertu ne soit pas donnée à celui qui ne pratique pas ses vertus. C'est la plus grande méchanceté. Et si Dieu veut lui faire cadeau, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire, moi j'ai mérité, j'ai été juif avec effort à la sueur de mon front, alors je vais peut-être leur lavabas. Et alors l'autre qui n'a pas fait les mêmes mitzvot que moi, qui n'a pas transpiré la transpiration pieuse que moi, il va avoir le même lavabas, jamais de la vie. Ça, c'est la réaction que vous avez appelée normale. Elle est refusée par la foi. Et si Dieu veut, est-ce que vous comprenez ce qui... Qu'est-ce que ça peut... Alors, il faut changer de mentalité. Donc, c'est qu'il y a une raison grave. Vous avez compris la question ? Essayez de me dire laquelle. Je vous répète les données du problème. La raison pour laquelle Moïse demande cet éclairage prophétique, qu'il y ait des prophètes en Israël, et la Shrina, ça veut dire qu'il y a une capacité prophétique dans tout Israël. Et les prophètes en sont les porte-paroles. La capacité prophétique hébraïque, elle est collective du peuple d'Israël. Et les prophètes n'en sont que les porte-paroles. Et c'est pourquoi quelqu'un m'a posé la question, je ne sais pas s'il est dans la salle, il était vacillé, le cours d'avant-hier, on parlait de Ruth. Comment se fait-il que David... que David... Ah, c'est vous la question ? Oui. Alors répétez la question que vous voulez.
J'avais entendu que la descendance de converti ne peut pas aboutir à un prophète.
Voilà. Alors c'est faux. Le converti lui-même ne peut pas avoir la prophétie hébraïque, mais sa descendance, son fils déjà, peut. Pourquoi ? Parce qu'elle est de l'identité collective d'Israël. Or, le converti entre dans l'identité collective, mais ne l'est pas de l'identité collective d'Israël. Et il y a dans la Gemara une controverse sur le prophète Ovadia. Est-ce qu'il était lui-même converti, ou est-ce qu'il était fils de converti ? Je ne sais pas si vous savez que le prophète Ovadia est descendant d'Ésaü. Okay ? C'est pourquoi il prophétise sur Ésaü, il connaît très bien Ésaü, et c'est lui qui prophétise la fin d'Ésaü. Je vous donne un exemple. Si nous étions dans la prophétie, Rabbi Akiva aurait été prophète. Il est descendant de converti. À Shmaïa Vartalion, que des grands du Sanhédrin, et énormément d'autres. Des grands d'Israël ont été des descendants de converti. Abraham. Alors, en tout cas, vous voyez que il y a ici une question. Pourquoi Moïse a demandé que la Shrina réside sur Israël ? Mais la réponse est claire. En principe, la créature ne doit pas être éclairée tellement, disons tellement, un minimum quand même. Je ne sais plus qui disait, vous allez me rappeler, l'homme n'est qu'un roseau, mais un roseau pensant. C'est Pascal. Bon, d'accord pour être un roseau, mais au moins un peu de pensée. Et comme dirait Alain Guigueveille, c'est le problème de la pensée, la parole. La vraie parole, c'est la musique. Alors on fait quelques trous dans le roseau et on a une flûte. Mais ça s'appelle un pipeau, ma chouette. Et alors tiens, ça s'appellerait le roseau chantant. Et il y a une raison, c'est que Israël va avoir une tâche très difficile dans l'histoire. Et 4000 ans après, on ne peut pas le nier. Rien de le mérite de ceux qui ont commencé. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Nous, on sait. Et par conséquent, il y a une réponse. Il y avait à demander, d'accord, je reçois la Torah, donne-moi la prophétie. Voilà, c'est clair ? Donne-moi la Shrina. Seulement la deuxième, n'attende pas aux autres. Ça ne sort pas de la morale juive. Alors, qui peut expliquer pourquoi ? Et vous allez voir que la réponse est simple, comme d'habitude.
écrit, vous serez un peuple de prêtres pour les nations.
Oui, et pourquoi? Qui a dit que les fidèles des prêtres de vérité ne méritent pas la prophétie de vérité? La prêtrise, c'est la sainteté. Okay. Ça ne suffit pas, comme même. Je veux dire, je vous cite l'explication du Ein Yaakov, qui est un des commentateurs du Talmud, qui dit ceci, ça s'appelle Ein Ra. Celui qui reçoit un cadeau et demande en plus que ce cadeau ne soit pas fait aux autres, c'est pas joli. Alors, en français non africain, on dit c'est pas joli, c'est terrible.
Oui, c'était un prophète qui savait par avance que les autres nations n'accepteraient pas la Torah.
Ça, c'est une bonne réponse, c'est lié. Mais il faudrait dire, mais c'est pas ce que le Talmud dit. Puisque les autres nations n'acceptent pas la Torah, ne leur donne pas la prophétie. Et il y a quelque chose dans votre réponse, mais ça suffit pas. Mais même comme ça, c'est pas joli. Je veux dire, l'argumentation qu'on dit ad contrario, c'est comme ça qu'on dit en temps une minute. Peut-être on aurait pu souhaiter, donne-leur la prophétie, qu'ils comprennent que c'est Israël. Ça nous aiderait.
Est-ce que ce n'est pas à cause du danger que constitue.
A contrario, pas à contrario. Okay.
L'antisémitisme est permanent et l'avantage qu'il pourrait tirer de la vérité qu'ils n'ont pas méritée se retourne contre le but même.
Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est le sens de la réponse. Je veux dire comment je vois la réponse. Il faut savoir la situation. Israël a une tâche particulière et. Il est en but à l'hostilité de l'universel humain. Alors déjà comme ça, sans que les nations ne connaissent l'éclairage prophétique de leur histoire, c'est très dur pour Israël. Alors si en plus, ils connaissaient l'éclairage prophétique de leur histoire, ils savaient plaider leur dossier à la manière de la prophétie, alors ce serait impossible pour Israël. Je vous donne un exemple. Nous sommes en plein conflit avec Ishmaël. C'est quelqu'un d'entre eux. Mademoiselle a posé la question. Et le dossier d'Ishmaël contre Israël n'est qu'un dossier de calomnie, de fausseté, comme le dossier d'Ésaü contre Israël. C'est bien, c'est problème d'antisémitisme. Tout est faux là-dedans, parce que tout est contradictoire. Et alors, et si Ishmaël connaissait le sens de son dossier en vérité, vous avez compris le problème. Et déjà comme ça, l'opinion publique mondiale, qui sait qu'Israël a raison, donne tort à Israël. Alors si l'opinion publique mondiale savait à quel point Ishmaël a raison d'avoir tort, vous comprenez la suite. Bon, j'ai dit suffisamment pour que ce soit clair. Okay? Vous voyez, ça va dans le sens un peu de votre réponse. Okay.
Donc automatiquement le problème de l'antisémitisme n'aurait pas eu lieu.
C'est pas évident. Vous croyez qu'il suffit d'être saint pour être. Vous croyez qu'il suffit d'être saint S-I-N-T pour être saint S-I-N? Évidemment pas. Un saint peut être. Enfin, un homme voué à la sainteté peut être aussi un rachard d'envergure. Je ne veux pas vous citer de nom. Je vais le dire avec des mots un peu plus clairs. Un homme voué à la vie spirituelle, à l'exigence de sainteté, peut être le pire des démons.
Mon daron, en ce moment, en France,
par exemple. Par exemple, où vous avez un dictateur qui regarde le monde avec des yeux perçants. Et pourtant, c'est certainement un homme de la sainteté musulmane. C'est-à-dire, effectivement, c'est-à-dire la valeur morale dépend de la liberté humaine. Regardez, je crois que le monde où il y a le plus de haine, le plus de rivalité, le plus de jalousie, le plus de tout ça, c'est quand même le monde des gens de l'esprit. Vous n'avez pas remarqué ça? Il suffit d'être voué à la vie de l'esprit pour être. Alors on pourrait le dire comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'être saint pour être saint. Il faut être trois fois saint. Voilà, où nous sommes dans cette question, c'est la deuxième demande de Moïse. C'est clair ? Alors on revient donc à notre problème, et rappelez-moi d'où nous étions partis, de quelle question nous étions partis, pourquoi... Oui, non, 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 mais pourquoi nous avons fait tout cela? Qui avait posé la question? Laquelle?
Parce que la prophétie,
pourquoi elle s'arrête?
Pardon?
Non,
que les nations, Moïse a demandé... Ah oui, que les nations n'ont pas reçu accepté la Torah, et pourquoi, ok? Et je vais vous citer d'ailleurs le Midrash qui en parle. Alors, quand on est dans ce chapitre, la troisième demande de Moïse, eh bien, c'est ce que j'avais cité au début, le sens de la destinée des justes et des non-justes. Voilà le dialogue préalable à la réception de la Torah. Alors, vous avez un exemple d'un Midrash, un peu plus d'un point de vue méthodologique. Il suffit de lire ça sérieusement pour savoir que c'est ce que le verset veut dire. Le Midrash n'a rien inventé. Le Midrash a déployé ce qui est impliqué dans le verset. Ça y est, c'est clair? Bon. Voilà. Il y a une autre question avant que nous revenions au cours. Allez, c'est vous. Qu'est-ce qui devait apporter le Tfilat HaKhodesh que j'avais demandé pour la référence d'hier à ce passage? Montrez-moi. À moins qu'ils soient en résumé. Non, ça c'est pas ça, c'est le Patahayaou. Ça m'étonnerait qu'il y ait des cabanons de la jeu vérifié tout de suite, mais en tout cas je vous enverrai la référence, vous chercherez une fois. Voilà, c'est dans le Shonest, dans la Amida des 18 bénédictions. C'est dans la bracha qui commence, ça c'est le Ritz Faradi. Tishkon Metokhashemilecha Kashadibarta réside dans Jérusalem ta ville comme tu l'as annoncé. Vechise David Abdecha Mea Betokha Tachim et raffermit en elle le trône de David ton serviteur Mea vite. Alors sur cette expression, et qui c'est David Abdecha Mea Betokha Tachim, il y a une kavana de prière, une intention de prière qui est formulée dans le commentaire de la prière qui s'appelle le Tfilat HaKhodesh. Et qui dit, à ce moment, il faut penser à demander que Arminaous Arachar n'arrive pas à tuer le Machar Benoît. C'est clair? Oui, pour ce qu'on comprend. Bien. Alors, où nous sommes maintenant? Je vais reprendre la page 43, et on termine le Midrash sur l'interpellation de Tamar à Judas. À propos du verset où elle demande, reconnais-tu à qui appartiennent ces objets que tu as laissés en gage? Vous vous rappelez? Ok.
Une question, c'est ce que vous venez de dire à propos d'avoir raison d'avoir tort.
Oui.
Est-ce que je vois un rapport avec dans le Focotan, dans le Lévitique, quand on commente l'expression, on dit, et Dieu dit, je me tournerai vers vous. Et je crois que c'est Rachid qui dit...
C'est je me détournerai ou je me tournerai?
Non, je me tournerai à nouveau.
Ah. Mmh.
Et le commentaire dit ça veut dire qu'il s'occupera d'Israël après s'être occupé des autres. Comme si ce qui était promis, c'était que l'avenir était promis à Israël.
Mmh. Attendez, si ça vient du contexte, il s'agit d'une préoccupation de châtiment ou de récompense? Attendez, je vais prendre le texte.
C'est plutôt le récompense.
Attendez, on va vérifier ça, voilà. Il y a l'FM, c'est ça? Il n'y a aucune allusion que aux autres. Attendez, je finis le chapitre.
Pas dans l'allusion, pas dans le verset, dans le commentateur.
Alors, il faut Rachid. Donnez-moi un... Regardez, si dans cette collection, vous avez le Dalek. C'est Vaïkra, regardez si c'est Vaïkra. Il renvoie à Midrash, c'est bien ça?
Moi j'ai vu dans le
Chute de Mouk. Ah non, la voix de la Torah. Ken, alors, Rabbi Mouk doit sûrement citer le Midrash.
Il ne donne pas toujours ses sources.
Mais je peux vous la donner là. Attendez, voilà, je vais citer ce Midrash. Effectivement, là vous avez raison, ça va dans ce sens-là. Le village qui dit, cela ressemble à un patron qui est occupé à payer ses ouvriers, il paye tous les ouvriers, et après, à la fin, il paye l'ouvrier de la dernière heure, comme on pourrait dire. Hein? Non, il donne tout au dernier. Ça va dans ce sens. C'est vrai? On pourrait dire ça comme ça. Enfin, rire à bien qui dit.
Il dit les autres, il se débarrasse des autres ouvriers.
De la corvée qui consiste à les payer.
Pas de toi après, ah oui. Parce qu'en fait, la récompense.
C'est ça, ça va. C'est bien, la charite, le dicla. C'est à la fin que tout. Il y a dans les paraboles de l'évangile que des paraboles qui s'inspirent de ce message. C'est l'ouvrier de la 11e heure qui dit à la 11e heure. Quel? Pardon?
Qui dit la chose à l'envers.
Oui, qui dit la chose à l'envers. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ça veut dire les premiers seront les derniers. Et pas l'inverse.
Il y a un chrétien qui me dit comme ça que c'était la névrose du but, il appelle ça la procrastination.
Expliquez ça.
Crasse, c'est un adverbe latin qui veut dire demain. Alors procrastination, ça veut dire ils espèrent toujours.
Les chanards battent. Le bon Dieu nous a créé avec deux mains, on est censé. Alors, deux mains. Et ça, c'est un miracle. Que Dieu a tout créé par sa parole, mais l'homme, il l'a créé avec les mains. C'est un miracle sibyl. Vous voulez qu'on étudie ce miracle? Alors, attendez, je prends la chute. Je vais dire où ça se trouve. Ça doit être dans le chapitre 2, que Dieu a formé l'homme. Le terme Vayitzer, c'est-à-dire comme un artiste qui forme une forme. Alors le miracle dit à ce propos que tout a été créé par la parole, mais que l'homme a été créé par des mains de Dieu. Qui peut expliquer un sens à cela? Et je vous signale que le risque d'une forme anthropomorphique du Midrash, ici, n'est pas du tout esquivé. Le Midrash sait très bien qu'on peut réagir en disant anthropomorphique, qu'est-ce que ça veut dire les mains de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire la parole de Dieu?
C'est quand même lié au 17
ça, vous suivez toujours votre... C'est vrai. Et alors, et qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit avec les mains, donc avec 10 doigts? Mais la question
est... C'est l'homme qui agit.
Non, c'est la différence entre 10 paroles et 10 doigts. 10 doigts, c'est...
Parce que c'est l'homme qui agit, les mains sont reliées directement au cerveau. Donc,
attendez,
la parole et les mains.
Là, vous ajoutez un paroles au cerveau.
Non, mais,
attendez, le Midrash dit qu'il y a une différence entre la manière dont Dieu a créé tout ce qu'il a créé, c'est par la parole. Et ça, je renvoie à la première conférence, dans quelques petits échanges là-dessus avec le psychiatre, okay, M. Rey. Et dans l'étonnement, c'est un thème qui m'a beaucoup frappé. Et mais l'homme, il l'a créé, les Yadayim, avec les mains.
Parce que, est-ce que l'homme n'est pas sorti de l'argile, de la poussière?
Oui, c'est la question même. C'est la question même. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer un acte démiurgique, comme on dit en français, où la parole peut façonner la poussière. Si la parole peut créer la poussière, elle peut aussi la façonner. La différence reste encore, ok?
Ça renvoie peut-être à l'idée d'intimité entre Dieu et l'homme.
En quel sens?
Les mains, comme peut-être le rapport du père ou de la mère, enfin rapport paternel-maternel, et aussi il y a peut-être l'idée de providence, c'est-à-dire de guide.
Alors on s'approche peut-être plus. Je veux dire, attendez, je repose la question en hébreu. Voilà pourquoi le Midrash va trouver qu'il faut expliquer. Le mot de Vayitzer, dont le verset se sert, est écrit Vav Yud Yud Tzadeh Resh. Et normalement, on l'écrit avec un seul Yud, et pas avec deux. Okay? Par exemple, ce même mot de Haïtzer, lorsqu'il s'agit de l'animal, il s'écrit avec un seul livre. Ça nous a étudié un seul livre. Et alors, on va entrer dans la réponse. Haïtzer dit, le Talmud, ça indique que Dieu a créé l'homme avec deux penchants. Le Yetzer Tov et le Yetzer. Voilà, vous avez là. Tout dans la création se ramène à un principe élémentaire simple. L'homme, avec l'homme, on aboutit à une dualité. Et en fin de compte, la dualité qui préoccupe le plus la tradition rabbinique, elle signale tous les autres, la dualité métaphysique, la dualité sociologique, mais c'est la dualité morale. Alors, créer l'homme avec les mains, ça veut dire lui donner la possibilité d'être ou bon ou mauvais. Voilà, de même. C'est ça. Donc, ça veut dire que, on peut le formuler comme ça, c'est-à-dire que l'homme a été créé libre. Et alors que, finalement, toutes les autres créatures sont conditionnées par leur propre déterminisme d'être. Et j'ai fait allusion à cela à la conférence d'avant-hier soir, parce que j'ai signalé la formule de Yankelevitch, que l'homme est un impossible nécessaire, vous vous rappelez ? C'est-à-dire qu'il y a un mystère dans l'identité humaine, c'est sa dualité. Alors, c'est ce que ce midrash veut dire. J'ai vérifié dans les sources de la Kabbalah. L'homme a été créé par les mains de Dieu, ça veut dire qu'il a été créé avec le côté droit et le côté gauche, ça veut dire bon et mauvais à la fois. Bien et mal à la fois. Pas bon et mauvais. Bon et mauvais, c'est comme on adhère au bien ou au mal. Ce qui a été créé, ce n'est pas le fait d'être bon ou mauvais. C'est de pouvoir l'être, bon ou mauvais. Ce qui a été créé, c'est le bien et le mal, de manière différente. Mais c'est le caractère absolu du monothéisme hébreu. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a voulu, pas de la même manière. Et c'est le raisonnement de cela. Je vais faire l'analyse très brève pour indiquer l'importance de ce mirage que je viens de citer. C'est que dans la culture, les cultures humaines en général, on peut ramener à quatre doctrines la question de savoir comment l'homme peut être défini par rapport à la moralité. Vous avez une doctrine qui se formulerait ainsi. L'homme a été créé bon, le mal a fait irruption en lui. C'est la doctrine du péché originel, finalement. Okay? Enfin, ça va dans ce sens. L'homme est bon par nature, le mal lui vient d'ailleurs. Il y a des doctrines qui diront le mal lui vient de la société. Bon, ça consiste à refuser le problème. Hein? Et le mal de la société, d'où il vient ? Bien d'autres diront, ça lui vient d'un ange déchu. Bon, il a déchéance de l'ange, d'où ça vient ? Oui, ça ne fait que repousser le groupe. Et deuxième doctrine, l'homme est par nature mauvais, et c'est le bien qui lui vient d'ailleurs. Sans cette doctrine, on la trouve chez les gnostiques. Les gnostiques, la gnose. Et puis, vous avez une doctrine qui dirait, l'homme n'est ni bon ni mauvais, ça c'est des inventions de croyants. L'homme est indifférencié. Il serait, je crois pas que vous impliquez ça à Nietzsche, mais il faut le dire en deçà du bien et du mal. Okay. Pour la Torah, c'est très clair. L'homme a été créé avec le penchant au bien et le penchant au mal. L'indication est donnée par le fait que Vaïtser, il y a deux humains. Alors ça nous renvoie aux deux mains. Ça veut dire la main droite et la main gauche. Les valeurs, les forces qui viennent de la droite, les forces qui viennent de la gauche. Et vous savez, c'est le problème de la société humaine, ça se joue même au Parlement. La droite, la gauche. Quelle ?
Vous voulez dire quelque chose peut-être de plus simple, étant donné qu'on est à l'image de Dieu, et que Dieu nous, quand on dit l'image de Dieu, ça voudrait dire aussi une participation peut-être très active, plus active de l'homme vis-à-vis de la création de Dieu par la suite. Est-ce que si on disait autre chose, ça serait moins...
D'ailleurs, vous avez lié deux notions à l'image de Dieu et que l'homme participe à... Ces deux notions sont exactes l'une et l'autre, mais le lien n'est pas clair. Justement, je voulais éviter dans ma réponse d'employer l'expression derrière l'image de Dieu. Alors, puisque vous avez posé la question, je précise très brièvement. Alors, ça voudrait dire que Dieu a deux mains.
Non, l'image...
Ah, oui, pourquoi on ne peut pas employer le mot image ? On ne peut pas employer le mot image ici, à moins de l'expliquer. Après, je vous reciterai un midrash là-dessus. C'est ceci. Le texte en hébreu dit que l'homme a été créé à l'image que Dieu s'est faite de l'homme. C'est-à-dire à l'image de l'homme parfait. De l'image parfaite de l'homme. Du dessin E-I-N et pas du dessin I-N dans l'image. C'est clair ? Donc, ça, c'est ce que ça veut dire en hébreu. Mais c'est le Elohim. C'est-à-dire l'homme a été créé comme Dieu a voulu le créer. Et l'homme est à l'image du projet que Dieu a pour l'homme. Et ce projet que Dieu a pour l'homme, ça s'appelle le nom du Mashiach, qui est créé avant le monde. Le nom du Mashiach préexiste au monde. Et l'homme doit arriver à coïncider, littéralement par imitation, à imiter cette image idéale qui est le projet de l'homme idéal. De l'homme, oui, idéal en grec, de l'homme authentique. trigale sans entroïdote. Mais justement, ce message que je vais vous citer, c'est que quand Dieu a fait l'homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras une image. C'est à l'image de Dieu. Et c'est la théologie du catéchisme en frontière, c'est pas bien pratique. Et puis, rendez-vous au Sinaï. Alors, au Sinaï, il a dit, tu seras sage et tu n'auras pas d'image. Rendez-vous à Jérusalem. Le silence. Vous allez me dire demain. Bien, voilà, alors ça va dans ce point. Alors on revient à notre message, il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, pour hier soir, il n'y a plus de questions. Je dois vous dire, j'étais extrêmement satisfait de la soirée d'ailleurs. Et j'espère que le père Dupuy.
Vous avez été très gentil avec lui.
Ah non, c'était très méchant, parce que c'est, il y a une façon d'être gentil qui était... Ah bah ça, on parlait français.
Moi, je n'étais pas là hier soir, mais justement, je me demande qu'est-ce qu'il faut croire dans le Midrash, est-ce qu'il faut les prendre à la lettre ou
certains... Il faut les comprendre à la lettre, je vais vous dire. La Torah, enfin la Bible, pour dire ça en français, c'est un livre qu'il faut prendre à la lettre. De la même manière que l'histoire juive, eh bien, il faut la prendre au pied du mur. Vous savez, quel mur.
Est-ce que le père Dubois redira encore ce qu'il a dit
Depuis, oui. Dubois, c'est Joseph.
Si, c'est intéressant.
Oui.
Est-ce qu'il redira encore que qu'on a fait l'hébreu.
Ah oui, non, je le dis. Non, vous savez, le père Dubois est très honnête.
Oui, mais après votre explication, il continuera à dire la même chose.
Ah ben, il a changé d'avis à la fin.
Oui, il a changé
d'avis. Parce que j'ai pas compris. Oui, là, enfin, je vais demander la question de la source dans l'exégèse chrétienne de ce qu'il disait. Il n'a pas répondu, peut-être ça lui a échappé, mais je lui redemanderai. Et ça m'étonne quand même. C'est une thèse qui doit être personnelle. De dire que l'hébreu est ce qu'il est qu'à partir du Sinaï. Alors que pour la tradition juive, c'est l'inverse. Il n'y a plus à avoir le Sinaï que parce que l'hébreu était ce qu'il était. Est-ce que c'est clair? Enfin, je vais citer suffisamment de textes.
Il est vaincu.
C'est vrai?
Mais lui, il est vaincu.
Non, dans son exposé. Mais après mon intervention, il a recodé un peu. C'est pas un jésuite. Est-ce qu'il est jésuite d'ailleurs? Non, il est dominicain.
Le père Huquet
qui est. Ah oui, non. Bien. Alors prenez donc la. Pardon?
Je déteste le dominicain.
Oui, oui. cordialement. J'ai assisté une fois d'ailleurs à un colloque de l'Église dominicaine de Jésus, d'ailleurs un oratorien, qui a sorti une jolie histoire juive, enfin chrétienne. La différence entre un dominicain et un jésuite. Alors dans les répertoires des couvents des jésuites, ou l'inverse, peu importe, mais c'est l'histoire, il est écrit interdit de manger en fumant. Chez les dominicains, c'est interdit de fumer en mangeant. Comme vous voyez, je ne mange pas. Donc, alors, il me reste une question sur le langage que nous avons étudié hier. Vous allez le reprendre à partir de la fin de la page 42. C'est sur le verset. Et elle dit, c'est Tamar qui parle, à Kerna, reconnaît donc. Elle s'adresse à Judas en lui envoyant les gages qu'il avait laissés chez elle. Je vous rappelle, c'est à Chotemet, le sceau, la bague de royale, à Ptilim, les franges d'un signe de la royauté, et à Maté, le bâton de commandement de chef de tribu. Et il s'agit, je vous rappelle, des attributs de la royauté messianique du chef de la tribu de Judas. C'est clair. Alors c'est ça qui laisse en gage cette Tamar, en attendant de t'envoyer le prix qu'elle avait demandé, c'est-à-dire un chevreau, le chevreau qui sera le sacrifice de la sortie d'Égypte. Hadgadia. En fait, j'ai traduit chevreau, parce que c'est comme ça que les traductions traduisent. Mais Gedi, c'est un âge. Et ça peut être soit chez les chèvres, soit chez les brebis. Okay. Yesh Gedi Aizim, ou Yesh Gedi Tzom. Un âge. Je crois que c'est le premier, l'âge le plus tendre. Ça s'appelle un cabri en français, oui, qui est interdit de mélanger avec du lait. Le cabri au lait, etc. Alors, on retrouve ça. Et Vatomé Hakerna, alors, vous vous rappelez, le village dit, dit qu'est-ce qu'il faut, puisque la répétition de l'interpellation, c'est qu'entre-temps. Vous voyez comment le village réintègre le non-dit du verset. Il a cherché à nier, Amralo, il n'a pas eu le courage d'assumer ce qu'il avait fait dans les deux lectures, même. Et ce qu'il avait fait, vous vous rappelez, dans la lecture du Midrash, c'est que, puisque c'est ses propres fils qu'il a eu avec Batshua, la Cananéenne, vous vous rappelez, sont incapables d'assurer la procréation, alors c'est moi, Judas, qui dois le faire. Et cela, il l'a fait. Il n'a pas le courage, à ce moment, semble-t-il, le courage suffisant d'en assumer les conséquences au vu et au su de tout le monde, puisque le monde entier va le savoir dès que le monde entier lira la Bible. Est-ce que c'est clair? C'est à ça qu'il s'engage. Az Amrala, Amralé. Alors, il a dit, Akerna l'émi, reconnaît à qui appartient ça. Et là, c'est bien là. Akerna et Boracha, reconnaît ton créateur. Ça veut dire que si tu n'assumes pas cela, c'est comme si tu ne reconnaissais pas la souveraineté de ton créateur. Et on va ajouter, et que c'est lui qui fait ça quand c'est toi qui le fais. C'est clair? Shelcha, Veshel Boracha, Hem. Ces attributs de la royauté messianique t'appartiennent et appartiennent à ton créateur. Est-ce que c'est bien clair? Et vous voyez, dans le verset précédent, alors là je voudrais vraiment être le plus clair possible, surtout en français, dans le verset précédent, que vous allez lire avec moi, pour voir la question, c'est donc au chapitre 38, verset 25, prenez le chapitre 38, verset 25. Lorsqu'on l'amena au supplice, Ehi Shalcha El Hamia, elle envoya à son beau-père les mots en disant, Lehi Shacher El Elo, c'est à celui, l'homme, à qui appartiennent ces choses, Anochi Hara, que je suis enceinte. Alors, dans notre Midrash, le fait que le Midrash va dire, et celui-là, c'est toi, Judas, ça veut dire que tu n'es que le délégué du Créateur. C'est comme si elle disait que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Est-ce que c'est clair? Alors, vous voyez, dans quel sens il faut le comprendre, sinon on bascule dans le mythe que vous connaissez. Et il y a d'autres épisodes dans le récit de la Torah, qui se souvient, la première fois qu'un fils de l'homme va naître, qu'est-ce que Dieu fait? Il a fait, vous voyez? C'est Caïn. Qu'est-ce que dit Hava? Kaniti ish et Kachet. Alors, des traducteurs mythiques traduiront, j'ai acquis un homme avec Dieu. Et alors que la lecture hébraïque, c'est Kaniti Ish et Hashem. J'ai acquis un homme grâce à Dieu. C'est-à-dire, lorsque un homme qui s'appelle Ish vraiment naît, c'est Dieu qui fait ça. Je vous donne un autre exemple dans la naissance des enfants de Jacob, la naissance de Issachar. Mais d'abord, je veux que l'idée soit claire. Okay. J'essaie de l'exprimer de la manière suivante. Quand les premiers chrétiens disaient ce qu'ils disaient, ils le disaient avec le sens savé pour les juifs. C'est ensuite, ça s'est paganisé. Est-ce que c'est clair ce que tu dis? Et alors, je vous donne cet autre exemple, c'est la naissance d'Issachar, c'est dans Vayetse, un peu avant. Quel est le thème? C'est un thème du Talmud, qu'il y a trois qui collaborent à la naissance d'un enfant. Le père et la mère qui collaborent pour donner le corps, et Dieu qui donne l'âme. Donc, d'une certaine manière, en hébreu, les choses sont très claires. Okay. Dès que c'est traduit dans une langue païenne, ça devient païen. Est-ce que c'est clair? Alors, je vous donne cette exemple tout de suite. Non, oui. Voilà, prenez le verset 16 du chapitre 30. Ah, puis d'ailleurs, vous allez voir qu'avec ça, on va rentrer tout de suite dans le Midrash. Alors, vous avez le verset sous les yeux? C'est lorsque Jacob a engendré Issachar. Et alors, il y a une scène que la Torah nous raconte, c'est pas le sujet maintenant. Et puis, verset 16, Vayavo Yaakov Inasade, Jacob revint du champ, Bayrev le soir, Patetse Léa Litrato, et Léa sortit à sa rencontre, Batomer elle dit, Elaïtao, c'est vers moi que tu viendras. C'est-à-dire, ce jour m'appartient à moi et pas à Rachel. Vous voyez la différence de style avec la femme de Potiphar, hein, le Midrash d'hier. Et Ruth qui dit, tu étendras ton manteau sur moi, alors que la femme de Potiphar dit à Joseph, Shirvaimi. Alors voilà comment Léa parle, Elaïtao. Et nous parlerons ce soir de ce problème. Il y a une manière de parler propre à l'hébreu et qui fait déceler si c'est un tzaddik ou un rachat qui parle. Finalement, je crois qu'on peut retrouver ça dans toutes les autres langues, mais au niveau de la politesse. Et il y a toutes les premières pages de la Masoret Tzachim montrent l'importance du langage. J'ai cité une fois cela comme ça, c'est une citation de Buffon. Buffon dit « Le style, c'est l'homme. » Alors j'ai inversé. « L'homme, c'est son style. » Ça veut dire qu'il suffit d'entendre quelqu'un parler pour savoir qui il est. Déjà dans son style. Si c'est un tzaddik ou un rachat.
Vous pouvez nous donner la référence exacte de femme.
C'est un peu, attendez une minute que je finisse, c'est un peu le génie de la psychanalyse, en fait de la psychologie en général. Un psychologue compétent, en écoutant parler quelqu'un, sait déjà de quoi il s'agit dans son problème. Okay. Et après, il lui faut la patience de faire que le patient accouche. Mais le vrai patient, c'est le médecin. Quelle était votre question, madame ?
Je voulais les références de ce verset dans Léa.
Oui, c'est le verset 15 du chapitre 30. Alors, va-t-il céder à l'Ikrato ? Léa sortit à sa rencontre, va tomber à l'Aïtao, et elle dit, c'est vers moi que tu viendras, qui s'achor se chaftira. Car j'ai payé ton salaire, Bedouda et Béni, par le mandragore de mon fils. Vous rappelez que le fils de Léa avait trouvé des mandragores. Vous savez que c'est des mandragores? Bon, les spécialistes disent que c'est un aphrodisiaque. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont des racines et qui ont la forme humaine. Vous voyez à quoi je fais allusion. Et alors, Rachel a demandé ces mandragores, elle était encore stérile. Et Léa les a donnés, on dirait, à la condition qu'on change de jour. Puisque, vous savez que dans la polygamie biblique, la maison appartient à la femme, et donc le mari va tel jour dans sa maison chez sa femme, une, et tel autre jour dans sa maison chez sa femme, l'autre. C'est clair, ça. Vaishka Vima, et il dormit avec elle, Balaila Ahu. Et le pshat, c'est cette nuit-là. Mais la forme grammaticale fait que le mélange a intervenu. Il devrait y avoir écrit Balaïla Ahahu. Et d'après les accents des Ta'amim, Baishka Ima Balaïla Hu. Et il dormit avec elle dans cette nuit, lui. Et lui dormit avec elle en fait. Qu'est-ce que ça peut vouloir, hein? Si c'est Jacob, on le sait déjà. Alors, qu'est-ce que dit le Midrash? C'est dans la référence du Midrash, c'est dans la Maseret Nida, à la page 31a. Voilà ce que dit Rabbi Hanan. Maïdirti vaishka ima balaylahu. Que signifie ce verset qui dit il dormit avec elle cette nuit, dans la nuit, lui? Melamed, ça nous apprend, shakazuvohu, que Dieu s'y a aidé. Beotodabar, cette chose, shenema, c'est ainsi qu'il est dit dans les bénédictions de Jacob à ses fils dans le parasha de Vaïchi, lorsqu'il bénit Issachar qui va naître de cette nuit, et il s'appelle Issachar, c'est écrit Yud Shin, Shin Kaf Resh. C'est clair? Il y a deux Shin dans Issachar. Et on lit Yesh Shar. Il y a un salaire. Le salaire de quoi? Le salaire qu'a payé Léa pour le mandat de Rachel. Okay? Donc c'est l'enfant du salaire, Yesh Shar, l'enfant de la rétribution. Alors comment Jacob va bénir Issachar en disant Issachar Hamur Garem? Issachar, c'est un. Littéralement, ça veut dire un abruti fini. Hamor Garem, c'est un âne complet. Hamor Garem. Alors, le Midrash va dire, il va écrire la question, comment Jacob bénit Issachar en disant Hamor Garem. Okay. Vous entendez que ça veut dire Hamor Garem, on est bourricot. Le Midrash dit, Issachar Hamor Garem. La naissance d'Issachar a été provoquée par l'âne. Là, on en fait dans le Midrash. De quoi il s'agit? Parce que Gavel, l'igrom en hébreu, ça veut dire être cause de. Okay. Et que quand Jacob revenait du champ, il était sur son âne. Et le champ et l'âne a bré, c'est vous avez dit, bré. Vous avez eu le concert de la Bréva à Tirite le soir. Vous avez mentionné la Bréva. Et c'est dirigé vers la tente de Léa. Alors ça veut dire que c'est le Hamor qui a fait que Issachar a pu naître. C'est clair? Donc Issachar, Hamor, Garem. Voilà comment on aura tout le verset. Alors Hamor fait allusion au Homer. Ça veut dire que finalement, c'est les Mitzvot Maasiot qui ont un salaire. Ce sera, regardez, le sens du Mitzvot. Ça veut dire, les patriarches sont toujours montrés chevauchant un âne. Alors ça, en français, ça ne se dit pas, comme on dit. On va dire un âne, mais...